Et vous êtes à Boulevard 102.1, 15h33. Je vous ai dit en début d'émission qu'on aurait des invités spéciaux qui se joindraient à nous ici et là pendant les trois prochaines semaines. On a un, j'imagine, qui avait vraiment hâte de faire de la radio parce qu'il est arrivé une heure d'avance à son rendez-vous. Alex Leblanc.
Je pensais que c'était à 3h.
Bien, quand je t'ai vu à la fin, je me suis dit, oh, soit on s'est mal compris, soit j'ai fait une erreur.
dans mon agenda, là, tout l'été, il est à 3h.
Pour vrai, bon, mets-nous ça à 4. Ouais. Alex, je te présente tout de suite parce que dans les prochaines minutes, on va rejoindre Louis Bellavance. Je sais que tu as participé au Festival d'été de Québec cette année. Il n'y a pas grand monde qui n'a pas trippé sur les 10 derniers jours. D'ailleurs, je me permets d'aller rejoindre Louis Bellavance tout de suite, qui est directeur de la programmation. Louis, comment ça va?
Ça va très bien.
Hey, on a le blues, Louis m'a dit aujourd'hui. Max puis moi, surtout, on en parlait. Là, difficile de retourner à une réalité. On aurait le goût d'aller prendre un petit verre sur une terrasse ce soir, de retourner voir un show. Est-ce que vous le ressentez, ce blues-là, vous, dans l'équipe?
Oui. Peut-être aujourd'hui, on est plus en mode, on peut-tu coller 8 heures de sommeil à un moment donné? Mais passer ça, absolument. Quelle frénésie, l'adrénaline qu'on ressent tout le monde avec les festivaliers, avec les restaurateurs, les hôteliers qui sont là. Le festival d'été et la ville de Québec, c'est indissociable. Oui, on a le goût de retourner sur une terrasse, mais bon, on va passer une couple de jours, mais on va y retourner quand même plus tard. Mais oui, absolument, on reste toujours nostalgique, on s'habitue jamais à ce niveau d'énergie-là que ce qu'on ressent au festival.
Mais là, avez-vous un break, Louis? Là? T'sais, quand le FEC termine, est-ce que vous êtes déjà sur l'année prochaine ou vous vous permettez au moins peut-être deux semaines pour redescendre?
Ça fait quelques mois qu'on est sur 2026. Donc, on est très, très actif et c'est, étrangement, c'est la haute saison de chasse pour aller chercher notre talent pour 2026.
Ah ouais, hein?
Donc, on peut se reposer. Moi, je vois mes enfants aujourd'hui pour la première fois depuis longtemps.
Oh.
C'est sûr qu'on prend une pause, mais c'est une pause très, très courte. Puis on est sur nos téléphones, on est sur nos courriels, puis on travaille activement sur 2026, mais on travaille sur Phono, on travaille sur Toboggan, on travaille sur Saint-Roch XP, on amène des shows en salle, on a fait des offres toute la semaine sur des shows pour amener à l'Impérial au Grizzly Falls. Donc, ça n'arrête jamais.
Tu parles,
mais,
je t'ai soufflé.
On a du fun.
tu parles de saison de chasse. On dirait que j'ai envie de t'arrêter là-dessus. Qu'est-ce qui détermine, qui définit cette saison de chasse-là par rapport aux artistes?
C'est un cycle. Hein. C'est à un moment donné, toute l'industrie se met à parler 2026. Et quand on parle de 2026, c'est l'année au complet. Mm-hmm. Donc, en ce moment, on a des conversations actives sur Phono 2026. On n'a pas fait encore Phono 2025. On fait des offres sur un événement qui est celui actuel n'a pas lieu. Puis, ça fait quelques mois qu'on fait des offres sur les artistes pour le FEC 2026. Puis à un moment donné, l'industrie au complet, et ce cycle-là, il est toujours plus court, il est devancé d'année en année, parce qu'il y a une multitude de festivals maintenant, il y en a probablement trop, ça fait que tout le monde est en compétition. Nous, on compétitionne avec la France, avec la Belgique, avec la Suisse, avec l'Italie, l'Espagne, et ces gens-là, ils sont sur le téléphone en ce moment en train de dire en 2026, on veut Chapel Round, on veut Coldplay, on veut ci, on veut ça. Et nous, on reçoit l'appel. Hey, voulez-vous ça, vous aussi? Parce que l'Espagne, ils sont forts sur ça pour l'année prochaine. Donc, c'est une compétition internationale pour le talent. Et c'est partout sur la Terre, ou à peu près, c'est l'été au mois de juillet. Et les festivals sont là. Et la compétition est extrêmement féroce. On a du monde qui paye en dollars américains, qui paye en euros. Nous aussi, on paye en dollars américains, mais nos revenus sont en dollars canadiens. Donc, il faut qu'on soit agressif. Il faut qu'on fasse partie de la conversation très, très tôt. Et puis, c'est ce qu'on vit en ce moment. On va quand même prendre une semaine de vacances, mais on reste jamais loin du téléphone.
On va évidemment revenir sur le FEC 2025, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui trouvent ça intéressant de parler de ce qui se fait bien d'avance pour 2026. Mettons, au moment où on se parle, y a-t-il quelque chose de signé quelqu'un pour le FEC 2026 ou on est juste dans des négociations peut-être plus avancées?
Ben on a quelques morceaux, puis
ouais.
On a des conversations avancées sur une tonne. T'sais, en ce moment, là, il doit y avoir des offres actives sur 8 soirs sur 11. Là,
oh,
mais ça peut changer. C'est ça. C'est organique, ça bouge, ça évolue. Pendant le fait que j'ai des dossiers majeurs qui sont tombés, que j'aurais pensé en commençant le festival, que l'année prochaine, on allait recevoir artiste X, dont je tairai le nom, parce que je veux le ramener en 27. Mais un moment donné, c'est tombé en cours de route, puis on s'est fait dire l'Europe a gagné. Il y a plus d'offres en Europe pour eux autres l'année prochaine. On est isolé dans ce dossier-là en particulier. Et on va aller ramasser des euros en 2026. Donc, et au même moment où on se fait dire ça, on se fait dire, est-ce qu'on peut considérer ton offre pour 2027? Et on répond à ça, absolument. On peut commencer à parler 27 maintenant, pas de problème. Wow. Fait que c'est ouais. Ça arrête jamais.
Quand vous pitchez des noms, là, c'est-tu, mettons, t'en pitches trois différents pour la même soirée, premier arrivé, premier servi, comment ça fonctionne? Il faut absolument que tu attendes la réponse d'un artiste avant d'en lancer un autre?
Oui. Le processus d'offre, quand on, dans le business, là, on dit « fais une offre formelle », on a un formulaire, un one-pager, où il y a les conditions de base, cachet, heure, stage, exclusivité. Ça tient sur une page. Et sur cette page-là, il y a une date d'expiration. Et là, on envoie ça. Et à partir du moment où l'offre est partie, on est engagé. Nous, financièrement, on considère la dépense à ce moment-là comme réelle dans le budget jusqu'à ce qu'on ait une réponse. Le deadline, à un moment donné, on va se faire dire « j'ai besoin d'une semaine de plus ». À ce temps-ci de l'année, des fois, c'est 2, 3, 4 semaines, un mois où on garde ça vivant. Puis à un moment donné, nous autres, on dit « OK, l'offre expire vendredi ». Êtes-vous là, êtes-vous pas là? Si vous êtes pas là, on récupère cet argent-là et on part en plein quelqu'un d'autre. Donc, c'est comme ça que ça marche. Fait qu'on peut pas faire des multiples offres sur une même date, mais on peut faire... on a 11 soirs. Là. Fait qu'on peut, on peut en shooter pas mal puis regarder ce qui se passe. Puis, à un moment donné, il y a quelque chose qui se confirme. Et là, on va arrêter une date et on va l'enlever du calendrier.
T'as piqué ma curiosité, Louis. Tu disais qu'il y en a peut-être trop des festivals au moment où on se parle. On dirait que, comme citoyenne, mon premier réflexe, c'est de me dire ben c'est pas positif. T'sais. Il y en a dans chaque petite ville, il y en a un peu partout. Ça, ouais. Ça fait vivre, on dirait, le coin. Mais comme programmeur, je vais le dire comme ça, pourquoi tu penses que c'est pas si positif que ça?
Je veux dire, c'est une question d'économie. Il y a beaucoup, beaucoup de festivals qui sont en difficulté financière. Il y a une flambée des coûts épouvantables dans l'industrie, là, les cachets d'abord, mais tous les coûts de production sont en flambée. Et plus il y a de joueurs, plus ça coûte cher, plus les artistes exigent plus d'argent parce qu'il y a de la compétition.
Fait que c'est la demande.
Pas mauvais. Oui, c'est ça. C'est pas mauvais pour le festivalier, mais pour nous, c'est plus complexe, évidemment. Puis là, je parle, c'est pas juste la ville de Québec. On parle de compétition à l'international. Et c'est des cycles. En ce moment, on voit qu'il y a beaucoup de festivals en Europe, par exemple, qui ferment, qui ont de la difficulté, qui annoncent qu'ils suspendent une année. Live Nation fait des pauses sur des événements. On sent qu'il y a une saturation. Et ça, c'est une bonne chose parce que évidemment, les meilleurs vont rester et ils vont se retrouver avec un meilleur rapport de force avec l'industrie et on va assurément faire partie des meilleurs qui vont rester puis qui vont bénéficier d'un ralentissement de la demande. Mais on s'en sort bien de toute façon.
Louis, c'est le temps de parler de l'édition 2025 qui a fait triper pas mal de monde. On avait la jasette tantôt, Max et moi. La plus grosse soirée, finalement, vous devez avoir les chiffres, vous autres, là, ça ressemblait à quoi? On était en hésitation de Benson Boone et Shania Twain. Est-ce qu'on est là?
Oui, ça, je pense que c'est nos deux grandes soirées. On peut ajouter à ça là, Kygo, Avril Lavigne, Simple Plan. Mm. Je pense que ces quatre soirs-là doivent être les plus forts cette année. Mais cette année, c'est justement une année où c'est pas un soir. C'est une superbe édition qui a été constante du début à la fin. Salle Barbe a eu une foule formidable. Big Flo et Oli a eu une grande foule. Rod Stewart a eu une bonne foule. Ozier, ça a été bon tout le temps. Puis Colin, hier soir, on a ouvert les portes à 9h ou à peu près. Et on a quand même eu des dizaines de milliers de personnes qui sont venues à Farouco, qui sont venues voir l'hommage à Céline Dion. C'est incroyable. Écoute, merci festivalier, bravo, chapeau. Ils nous ont déjoué soir après soir. C'est toujours meilleur qu'on pense. Puis non seulement les gens viennent, mais ils sont là. Ils répondent, ils chantent, ils crient, ils applaudissent, ils sont tellement vivant. Et ça, les artistes le voient, le ressentent. Et ça aussi, ça fait une grosse différence pour nous, pour attirer des artistes à venir performer chez nous.
Puis là, on parlait des plaines, mais George V, cette année, qui a été un immense succès, une coupe de soir qui ont fermé, Matt Lang qui arrive dernière minute remplacer Nate Smith, on doit fermer. Est-ce que la qualité d'artiste, la qualité de soirée qu'on offre à George V fait que faudrait trouver quelque part plus grand que ça, parce que ça doit vous... Ben, en fait, d'un côté, on peut le voir que c'est un grand succès, mais en même temps, ça doit vous gosser un petit peu d'être obligé de fermer une coupe de soir. Comment vous le voyez?
Ben, c'est sûr qu'on aimerait accueillir plus de gens. On parle d'un site à 10-12 000, puis un site à 90 000. La marche est extrêmement haute entre les deux. Puis, cette année, avec l'électrofec qu'on a sorti des plaines, ben, on a fait un des plaines, mais on en a fait un autre à George V. On a fait une soirée country pour la première fois à George V. Ça a fonctionné mortellement. Fait que là, on se dit... on fait avec ce qu'on a. Évidemment, on veut pas s'en aller du centre-ville. Les terrains, là, tout le monde, vous connaissez la ville. Allez vous promener. Il n'y a pas des options à l'infini. Faut que ça se passe autour de George V et du Parc de la Francophonie. On pense que le Parc de la Franco va être en rénovation pour un moment. Mais on est toujours préoccupé et en mode solution pour se dire on est-tu capable de faire plaisir à plus de monde de ce côté-là, parce que ces shows-là sont aussi importants que les shows sur la Sainte-Belle. Parfois, on y arrive, mais tu sais, on veut pas programmer moins fort pour pas refuser du monde. On essaye d'amener le bon niveau de talent là-dedans. Puis, on a eu un écran au Parc de la Francophonie cette année qui a fait plaisir à beaucoup de monde.
Vraiment.
Mais c'est sûr que c'est une question qui est toujours dans notre tête. Comment on fait pour avoir le plus d'accueil possible sur la scène de tout Québec?
Lequel est le plus grand, le Parc de la Franco puis George V, hein?
George V,
ouais, c'est ça qu'on se...
Ouais, 1005 à 2000 de plus.
Mais c'est vraiment un beau spot, là. Je ne sais pas si vous avez l'intention de laisser ça comme ça, mais on dirait que moi, ce serait ça maintenant que je serais bien heureuse, là.
Ben, on était là en 2019, ouais. Avant la pandémie, on l'a fait un an, on avait juste une scène à ce moment-là. Puis c'était un tour de force de rentrer les deux scènes côte à côte à George V. On pensait que ça se pouvait pas, puis chapeau là, à notre équipe de production, Pat Martin et sa gang, qui ont... avec nos fournisseurs, trouver des façons de squeezer ces deux stages-là sur l'espace-là, parce que, oui, le site est plus grand, mais l'espace pour mettre les scènes est plus petit. Le défi était là, mais on l'a fait, ça a été formidable, donc oui, je pense qu'on va rester là, mais c'est sûr que quand le Parc de la Francophonie va être disponible, on va vouloir être là aussi d'une façon ou d'une autre, donc ça, c'est une grande réflexion qui est toujours en chantier, mais on a adoré l'expérience cette année du côté de George V.
Hey Louis, moi j'ai une question, ça a l'air un peu champ gauche, là, mais c'est par rapport à la pyrotechnie. Puis je suis curieux de savoir, parce que je prends, mettons, un exemple comme le show de Post Malone l'an dernier, où il n'y avait pas trois minutes sans que quelque chose explose
pétard,
quelque
là.
Part. Puis il y a des shows où l'artiste est tout aussi grand, mais il n'y a pas vraiment de pyrotechnie, puis on ne sent pas mettre l'accent là-dessus. C'est une décision de l'artiste, sais-tu que ça part de ses poches? Comment ça marche, ça?
C'est une décision de l'artiste jusqu'à temps que nous, on décide ou on pousse pour aider. Évidemment, il n'y a pas un artiste qui va refuser d'avoir des pétards. Ben, peut-être, mais c'est rare. Mais effectivement, c'est une dépense à leur charge. Mais nous, quand on négocie les cachets, on a cette conversation-là. Dans le cas de Post Malone, moi, j'avais vu son show une couple de fois. Puis dans pas mal toutes les shows qu'on a faites, c'est des shows que personnellement, j'ai vu. Ozieux, Benson Boone, Farruko, Post. C'est toutes des shows que j'ai vues plusieurs fois. Même Benson, ça fait trois fois que je le vois cette année.
Chanceux.
Fait qu'on sait ce qu'ils font. Puis eux, ils ont un standard. Post, c'est un show de pétard d'un bout à l'autre. Il fait ça partout, tout le temps. Quand on négocie, on lui dit, nous, on veut les pétards. Alors, comment ça va se passer? Je le mets sur le cachet ou je garde une réserve, ou donc c'est une négociation à la pièce. Mais faut comprendre là, que la production de Post Malone, c'est une coupe de 100 000 de patatras. Fait qu'il faut que quelqu'un paye pour lui ou nous ou les deux. Mais c'est pas tous les artistes ou nous, on peut pas faire ça chaque soir non plus de notre côté. Il faut que ça fasse partie de l'ensemble de l'œuvre. Mais l'année passée, un gars comme Alan Walker qui vient faire l'électrofec, À un moment donné, c'est l'électrofec, c'est un show de production. Là. C'est l'électrofec, là, je pense que tout le monde a compris. On vient voir ce show-là avec nos yeux, on l'entend aussi, mais c'est une signature de production. Nos fournisseurs se mettent en valeur, nos équipes techniques, c'est le top du top de jusqu'où on peut aller avec la technologie aujourd'hui là-dedans. Puis l'année passée sur Alan Walker, lui, il arrivait léger un peu, tu sais. Parce que pas le même niveau de cachet, lui dire je vais faire un Post Malone de moi-même, ça rentrait pas dans ses financièrement, ça se pouvait pas. Et puis on est allé vers lui avec l'équipe de production, les gars me disent ce qui va se passer. On a pris contact, puis on a dit hey les amis, vous êtes un peu légers là pour l'électrofec, je suis pas sûr que vous avez compris ce qui vous attend. Puis on a eu la conversation, puis dans les 48 heures avant son show, on a ajouté les lasers, on a ajouté toutes sortes d'affaires, et nous, on a décidé d'investir, et ça a fait un show extraordinaire. Donc, ça peut aller de bien des façons, tu sais, la pétarade pour Post Malone, soir après soir, premièrement, à un moment donné, on serait blasé parce que ça n'arrête plus, mais c'est financièrement à peu près impossible d'aller là tout le temps. J'avais pas idée comment... 10 secondes de feu d'artifice, ça coûte cher. C'est ridicule. Mais on le fait aussi souvent qu'on peut le faire. Mais c'est effectivement la décision ultimement de l'artiste.
Parlant de décision d'artiste, je reste un peu dans le même sens. On a vu dans le Journal de Québec que Coldplay aurait été au Festival d'été s'il avait accepté de jouer sa scène du Festival d'été. Parce que là, à Toronto, c'est Coldplay. Et on voit leur scène les derniers jours avec les shows qu'ils ont donnés. Puis c'est vrai que c'est quelque chose, puis que c'est pas comparable à la scène du Festival d'été. Est-ce que ça arrive souvent, ça, qu'on dit « Ouais, ben là, c'est parce que la scène du Festival d'été est faite de même, puis on peut pas la changer chaque soir, c'est techniquement impossible. » Puis c'est-tu vraiment vrai que si c'était juste ça l'enjeu avec Coldplay?
Il aurait fallu trouver un terrain d'entente financier, puis je pense qu'on y serait arrivé. On a été très, très loin dans cette négo-là pendant... Ça a duré 6 mois, là. Puis ça fait très, très longtemps que c'est fini, ce négo-là. Je veux dire, ça remonte à l'été passé. Mais... oui, on peut trouver des solutions. L'organisation du Festival d'été est agressive. On sort de cette édition-là en se disant qu'on a un des meilleurs festivals au monde. Puis, on tourne jamais le dos à une occasion. Si Coldplay avait dit « On s'en vient puis on joue sur votre stage », on aurait trouvé une façon. Évidemment, ça a un impact. Là. Je veux dire, il va falloir que... je veux pas aller trop loin là-dedans, mais ça peut pas être juste comme on fait tout le temps, mais on rentre des Coldplay puis des M&M, puis ça veut dire, faut sortir vos calculatrices, tout le monde, demandez va falloir s'ajuster. Mais on se sauve pas de ces négociations-là, on essaye de les conclure, et cette année, Coldplay était là dans nos dates et avait beaucoup envie de venir nous voir, mais pour eux, vous avez ceux qui ont vu le show, vous voyez des images, tout. Eux autres, ils ont probablement travaillé 3 ans pour monter, faire créer cette production-là. Et en ce moment, leur plaisir dans la vie, c'est de prendre cette prod-là puis de la présenter à leur public soir après soir, de rentrer sur notre stage, qui est formidable. Là. C'est un stage d'exception. Là. Personne ne dit qu'on n'a pas un stage
mais
phénoménal. On a le meilleur setup qu'il n'y a pas pour un festival. Mais... c'est comme un paquet de monde qui nous écoute en ce moment qui ont vu Billie Eilish au Centre Vidéotron. Ouais. Sa production, ses signatures, elle, là, Billie, en ce moment, cette fille-là, là, a travaillé pendant 2 ans sur ce show-là, avec ces effets-là, avec son plancher qui est un écran à rentre dans le cage de laser, de ci, de ça. Ceux qui ont vu le show comprennent de quoi je parle en ce moment. C'est ça son fun en ce moment. À un moment donné, avoir du fun autrement, c'est peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, puis elle va dire, je veux aller au-devant de festivaliers, je veux jouer devant 80 000 personnes, ça va être une autre décision, ça va être un autre mindset. Mais ils font des choses incroyables et qui sont capables de livrer au Centre Vidéotron, qui sont pas capables de livrer chez nous pour le moment dans cette configuration-là. Coldplay, pour eux, c'est que des stades, mais... Encore une fois, on dit non à personne, on discute avec tout le monde, puis il faut pas mettre une croix sur qui que ce soit. On continue à travailler toujours dans ce sens-là, On verra quand une opportunité réelle sera là, comment on va pouvoir l'adresser. Mais une chose qu'on peut pas faire, c'est enlever notre stage. On roule, c'est le festival d'été. C'est ça notre setup, puis il est formidable, puis il roule pour 11 jours, puis il faut que les artistes rentrent là-dedans. Il y en a beaucoup qui le font, il y en aura encore beaucoup. Il y en a pour qui en ce moment, c'est pas possible. Peut-être que ça va être possible l'année prochaine ou dans 5 ans.
Je vais saluer Kim. Louis, qui a une question pour toi qui nous dit les artistes là, qui sont invités. Je pense à la soirée Big Flo et Ali où il y a Fouki, J. Scott, Loud qui sont débarqués. Est-ce que ça, c'est de votre sort au niveau monétaire? Est-ce que c'est les artistes de base qui gèrent ça? C'est-tu du bénévolat? Comment ça marche?
Chaque situation est différente. La crypte blanche des Salbarbes, on a travaillé ça. Le groupe et moi et leur metteur en scène et leur gérance ont travaillé pendant des mois là-dessus. Donc ça, c'est une conversation ensemble. Chacun des invités, comment ça coûte. C'est une enveloppe globale puis qui est gérée par le festival. Dans le cas de Big Flo, par exemple, eux ont un cachet conséquent avec l'envergure d'artistes qu'ils sont. Et dans ce cas-là, c'est eux qui ont pris la responsabilité d'eux. Puis évidemment, on se parle, puis on nous dit à un moment donné, on aimerait ça que ces gars-là viennent sur le show. Nous autres, on dit, garde, on va accommoder ça de toutes les façons possibles. On va les recevoir avec les plus grands honneurs, mais c'est la décision de Big Flo. Et puis, eux autres ont amené ces gars-là, puis ça a fait une magie incroyable. Charlotte qui débarque avec Alyosha.
Louis.
Ces deux-là se connaissent bien, mais ça, dans ce cas-là, nous, on n'a même pas de nouvelles. Puis, à un moment donné, 24 heures avant, un texto. Puis bon, c'est du monde qu'on se connaît bien. Charlotte va être là. Mon Dieu, merci la vie. Puis, ça a coûté rien du tout.
Puis, ça m'a fait mal, ça, là, t'as pas aidé.
Puis, tu sais, Charlotte, elle suit pas Alyosha en tournée, là. Je veux dire, la veille, elle était à Trois-Rivières, puis elle était pas sur stage, là. Fait que, tu sais, il y a des moments comme ça où on, encore là, la relation qu'on a, Laura, peut-être, mais juste la gentillesse de Charlotte Cardin de venir faire ce stunt-là, c'est extraordinaire. Merci Charlotte, si tu nous écoutes. Phénoménal.
J'ai pas le choix de terminer en t'en jasant, Louis, la fameuse grève des mécanos du RTC avec du recul. Là, ça a-tu fait si mal que ça? Moi, je disais à Max en début d'émission que j'ai eu l'impression que, comme dans toutes, les gens se sont adaptés. Par contre, la minorité parle toujours plus fort. Puis on voyait des publications sur les réseaux sociaux comme quoi il y a des gens qui abandonnaient leur billet pour le fait que je l'ai pas tant senti, mais je suis curieuse de voir de ta perception.
De notre perception, on a vu du très positif et on a aussi quand même perçu du négatif. Le positif, c'est la première année de l'histoire du festival d'été où les gens sont venus aussitôt. L'achalandage sur les sites a été tellement bon à 17h50, 18h30, 19h45. Ça, c'est du jamais vu pour nous autres. Et il n'y a rien de plus gratifiant pour une équipe de programmateurs que de voir des gens à 18h, 19h sur nos sites en train de découvrir la sous-carte, puis de voir ces artistes-là que nous autres, souvent, on capote bien plus sur ces artistes-là que sur celui qui va jouer à 21h30. Puis cette année, mon Dieu, Georges V, Carré Diouville, l'Assemblée nationale, du monde, là, comme pas possible, très, très tôt. Ça a été une source de satisfaction, d'émerveillement pour nous autres, pour les artistes. Pensez à ces bands-là pour qui c'est le show le plus important de sa vie, mais ils jouent à 7h. Puis ils donnent tout. Puis des fois, il y a une poignée de monde en avant. Cette année, il y a des bands qui ont joué ces plaines à 7h devant 30 000 personnes,
c'est
devant
fou.
40 000 personnes. Le monde ne voit pas les étoiles dans les yeux de ces artistes-là. Chiara Savasta, Julian, Goldie Boutillier, hier. Qui, tu sais, eux autres, ils restent après voir le show de Shania. Puis ils sont dans une petite loge avec moi en train de regarder ça. Puis ils ont le téléphone toute la soirée. Puis ils font des selfies. Puis ils filment le show. Puis ils capotent. Puis ils étaient là sur la scène. Puis il y avait du monde. Donc, pour revenir à ta question... Si le RTC, ces problèmes-là ont eu comme effet que les gens se sont adaptés, organisés et ont choisi de venir vivre le festival plus tôt, je suis éternellement reconnaissant de cette situation-là. D'un autre point de vue, c'est vrai que ça a été lourd sur le trafic. Nous, on l'a vu, amener les artistes de l'hôtel au site, amener les artistes de l'aéroport au site, du Artist World au site. On a on a compris là qu'on c'était du lourd. Là. Et puis ça, ben c'est dommage. Mais je pense que les absents ont toujours tort, puis que les festivaliers ont toujours raison. Tout le monde qui était sur le terrain cette année, ils ont eu du fun autant que nous autres. Puis, écoute, le reste, c'est pas entre nos mains. On n'a aucun contrôle sur toutes ces histoires-là. C'est un peu tannant qu'il y ait toujours 2-3 grèves pendant le festival d'été, on va se le dire, mais c'est tout. Passer ça, on comprend, c'est des dossiers qu'on maîtrise pas. Personne comprend vraiment les tenants et aboutissants de tout ce qui se passe. Mais les festivaliers qui sont venus ont répondu présent, puis c'est ça l'important. Puis je pense que notre achalandage va être vraiment très bon malgré tout.
Bien, honnêtement, moi, je trouve que ça démontre à quel point les gens de la ville de Québec et d'ailleurs sont impliqués par rapport à ce festival-là. Fait que j'y vois quand même du beau. Louis, avant de te laisser partir, tu nous as dit quand même qu'il y avait déjà des artistes qui étaient bookés pour ce qui est de 2026. Je sais qu'on peut pas en parler, là, mettons, dans quel genre?
Le genre de très bons artistes.
Ah ouais, le genre de très bons artistes. Regarde, une fille s'essaye. Louis Bellavance, directeur de la programmation du Festival d'été de Québec. Merci énormément encore. Puis assurément, ben écoute, on s'en jasera pour Phono. C'est en septembre, mi-septembre, hein, si je me trompe pas.
Oui. Bon, oui, on a hâte. On est bien excités de ça. C'est tellement un bel événement. Puis on espère que cette année, il y a encore plus de monde qui va le découvrir. C'est complètement différent du Festival d'été. C'est une autre ambiance, ça se vit autrement, puis c'était vraiment le fun, puis il y a du talent là-dedans. Là. C'est peut-être pas les noms que tout le monde connaît autant, évidemment, que ce qu'on présente à Sainte-Belle, mais venez de l'essayer, vous ne serez pas déçus.
Ah, assurément. J'ai fait des découvertes l'année passée, puis je sais que Max et moi, on va définitivement être au rendez-vous. Je te souhaite une Parfait. Super belle journée, Louis, merci.
Merci, au revoir.
Salut, bye-bye. Hey, ça vous fait réagir par texto, là? Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Toujours un plaisir de jaser avec Louis. Il chôme pas. Moi, ça me fascine. Dans ma tête, là, le Festival d'été de Québec arrête. Prend au moins un peu de temps pour revenir, mais il y a le genre de job qui fait en sorte que tu peux pas arrêter. Là.
Puis on aurait tellement pu parler plus longtemps avec Louis. Moi, c'est pas compliqué. Juste parler de musique avec, puis aller dans des affaires bien, bien, bien précises. Juste ça, je pourrais faire ça pendant 4 heures. Là. Mais les dessous aussi. De... Puis évidemment, il y a bien... En fait, il peut plus... ne pas nous en dire que ce qu'il peut nous dire.
Ah, mais ça, il n'y a pas le choix, là. Puis,
ben exact, mais les dessous de programmation d'un festival, comme tu sais, qui nous disent qu'il y a déjà des noms, que là, ça, OK, 2026, ça marche pas, que là, c'est déjà sa liste pour 2027. Ces gens-là travaillent excessivement fort.
Irais-tu voir Shine Down au Festival d'été de Québec?
Ben oui, moi, j'étais sûr que ça allait être cette année. Que dans mes analyses que je faisais, tout ça, ça fitait vraiment cette année.
Peut-être en 2026. Shine Down, c'est ce qu'on écoute à l'instant. C'est sur l'album Planet Zero. On retourne en 2022. Voici d'être Don't Die à Boulevard 102. Vous êtes dans le retour.